Mais oui, mais Enrique, à un moment, il va falloir céder ta place. Non, mais sérieusement. Je ne sais pas. En fait, avec Enrique, on n'a jamais compris pourquoi l'émission reprend en direct. En fait, celle que tu viens de faire en direct, elle est enregistrée en continu. Et puis, du coup, elle redémarre sur l'antenne à 12h pile. Et donc, moi, le temps que je m'installe et autres, eh ben, ça y est, c'est parti. Je ne sais, on ne trouvera jamais de réponse, Enrique. Je serais tenté de dire, pour avoir comme un sas de décompression, chers auditeurs, entre VibrasOS et l'émission Biotine, je vous dirais Bom Dia et Bom Ano. Hein, j'ai essayé de regarder Google Traduction juste avant pour vous souhaiter donc une bonne année et vous souhaiter le bonjour. Bien sûr, je suis très heureux de vous retrouver en direct sur l'antenne de Graphite pour cette émission Biotine, émission d'actualité scientifique. Et il y a pas mal de choses que nous allons évoquer dans cette émission. J'essaye de suivre un peu l'actualité. Et là, ça va un petit peu trop vite. On va voir ce qui se passe dans l'espace. On va voir ce qui se passe sur Internet. On va aller se rendre à Las Vegas parce que c'était quand même intéressant ce Consumer Electronics Show. C'est le salon de la technologie à Las Vegas et on découvre des choses passionnantes, on en parlera. On ira pas très loin de Las Vegas. On ira en Californie avec les premiers éléments concernant les incendies vraiment catastrophiques de la Californie. Et puis, si on a le temps, on parlera aussi l'étude du professeur Raoul sur l'hydroxychloroquine, parce qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis qu'on s'est quitté mi-décembre. Je vous souhaite donc une très bonne année, une bonne santé, bien évidemment. Je vous souhaite d'avoir des projets vraiment intéressants et qui puisse vous épanouir. C'est ce qu'il nous faut. Il nous faut de l'épanouissement, il nous faut de la douceur et puis aussi un peu de musique portugaise pour nous mettre dans la bonne humeur. Je ne te raconte pas ce qui se passe dans ma voiture quand j'arrive. J'ai décidé de mettre la musique un peu moins forte parce que sinon je ne contrôlais plus mes mouvements. C'est difficile de conduire en t'écoutant, Enrique, bien évidemment. Je suis très heureux, amis auditeurs, de vous retrouver pour cette émission Biotine en direct sur l'antenne de Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM Graphite.net pour ceux qui nous suivent sur Internet en direct ou en différé, bien sûr. Et je lis sur le tableau qui nous permet d'avoir des informations de la direction de Graphite que nous sommes maintenant désormais présents sur une application qui s'appelle Radio Player France, si j'entends bien. Donc j'ai découvert ça tout à l'heure en arrivant, donc je vais télécharger cette application, ce qui permettra également de suivre Graphite un petit peu quand vous le souhaitez. Et voilà, ça peut être de plus en plus intéressant, donc on va suivre cela. Et ils nous ont enlevé le numéro de téléphone pour envoyer des messages par SMS. De mémoire, c'est 06 95 065 026, je crois. Yes. Toi, mais on ne perd pas du tout. Mais on a des réflexes, tu vois, qui sont immuables depuis tant d'années. Je pense que c'est ça, hein, 06 95 065 026. Si vous souhaitez réagir en direct pour nous envoyer vos SMS et je sais pas, nous souhaiter la bonne année ou réagir bien sûr face à l'actualité de cette émission. Voilà, c'est acrobatique, mais c'est bien, c'est ça, c'est la joie du direct, bien évidemment, ce qui nous permet un petit peu de montrer que la science, elle est vivante. Nous sommes aujourd'hui le 18 janvier, c'était en 2005 la présentation de l'Airbus A380 à Toulouse. Vous vous en souvenez peut-être, hein, on se souvient de ce gros avion qui sortait d'un hangar, c'était en 2005 déjà. Naissance le 18 janvier 1813 de Joseph Farwell Gladden. Il était fermier américain. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il vient faire dans une émission de science et de technologie? C'est tout simplement parce que ce fermier a inventé le fil de fer barbelé. Ça a profondément modifié le développement de l'Ouest américain. Il a inventé en fait ce fil de fer barbelé en utilisant un moulin à café pour faire ses fameuses pointes. Les pointes étaient ensuite placées le long d'un fil, puis après il y avait un autre fil qui était enroulé autour du précédent pour pouvoir fixer l'ensemble. Son brevet pour ce fil barbelé a été établi en 1874. En fait, il y a eu une bataille judiciaire parce qu'on contestait un petit peu le fait qu'il était l'inventeur à l'origine. Donc bataille judiciaire qu'il a fini par gagner et il a donc créé une entreprise pour produire de façon industrielle la première machine capable de produire en grande quantité à un faible coût ce fameux fil de fer barbelé. Il est mort en 1906. Il était l'un des hommes les plus riches des États-Unis quand il est mort. Il a fait fortune grâce à ce fil de fer barbelé, Joseph Farwell Gladden. Décès le 18 janvier 1878. Donc on est toujours dans ce 19e siècle. Le décès d'Antoine César Becquerel, physicien physicien français. Il consacre beaucoup de travaux scientifiques et ça lui permet d'intégrer l'Académie des sciences. Il fait de l'électrochimie appliquée aux arts. L'objet de ses recherches, il donne le premier l'idée des piles à courant constant. Il s'occupe également de climatologie à l'époque. C'est quand même assez novateur et intéressant. Il va travailler notamment en région Sologne parce qu'il est né du côté d'Orléans. Et il va travailler notamment sur l'amélioration du sol de la région de la Sologne. Il est donc mort un 18 janvier 1878. Antoine César Becquerel. Alors Becquerel, ça nous dit quelque chose, effectivement, parce que c'est le grand-père d'Henri Becquerel. Henri Becquerel, c'est lui qui est quelque part connu dans la famille des Becquerel. C'est lui qui découvre la radioactivité. Mais son grand-père, déjà, était un petit peu de la partie, on va dire. Et donc voilà, c'est une dynastie, les Becquerel. Et donc aujourd'hui, on célèbre le décès d'Antoine Becquerel. Nous sommes en 2025. Et en 2025, il y a parfois des années internationales qui sont proclamées. C'est le cas. Il y en a... Alors, 2025, il y a deux années internationales qui nous intéressent. Déjà, l'année internationale de la préservation des glaciers. L'ONU a décidé donc de proclamer 2025 comme étant cette année internationale de la préservation des glaciers. Et il y aura même désormais une journée consacrée aux glaciers. Ça sera le 21 mars. Et l'idée, c'est de sensibiliser le monde au rôle essentiel des glaciers, de la neige, de la glace dans le système climatique et le cycle hydrologie, ainsi qu'aux conséquences économiques, sociales et environnementales, bien sûr, des changements imminents dans la cryosphère de la Terre. C'est ce qu'on peut lire sur le site de l'ONU. Alors, cryosphère, c'est quoi ? Ça veut dire quoi, ça ? Parce que l'ONU nous balance toujours des textes comme ça. La cryosphère, on a la, comment dire, le préfixe cryo, qui signifie le froid, la glace. L'idée de la cryosphère, c'est les zones sur Terre ou sur mer qui sont émergées et où l'eau est présente à l'état solide. Ça peut être la banquise, ça peut être les icebergs, ça peut être les glaciers. C'est ça qu'on appelle la cryosphère. Et le deuxième année internationale, c'est l'année internationale des sciences et technologies quantiques. C'est encore une initiative mondiale qui va donc durer un an. L'idée, c'est de célébrer les contributions de la science quantique au progrès technologique au cours du siècle dernier et on va un petit peu sensibiliser le monde à son importance pour le développement durable au 21e siècle et veiller à ce que toutes les nations aient accès à l'éducation quantique et aux possibilités qu'elle offre. Alors, même question, c'est quoi la science quantique ? On nous balance des années internationales, là, c'est pas simple. Donc, la science quantique, définition de la science quantique, c'est de la physique même théorique. L'idée, c'est d'étudier un petit peu tous les phénomènes fondamentaux qui ont lieu au niveau de l'atome, même de taille inférieure de l'atome. C'est dire que c'est des éléments qui vont être difficiles à expliquer dans l'émission Biotine, parce qu'on est dans l'infiniment petit, et ce sont des sujets qu'on évoque rarement dans cette émission, parce que c'est assez complexe, d'autant plus complexe quand on a uniquement le média radio, c'est-à-dire que ça nécessite quand même un peu plus de schémas, d'illustrations, d'animations pour aborder la physique quantique. C'est pour ça qu'on aborde très très peu ce sujet-là dans cette émission, mais en tout cas, eh bien 2025 sera donc l'année internationale des sciences et technologies quantiques. Donc voilà, deux choses pour cette année 2025, les glaciers et la science quantique. On va s'amuser, mes enfants, cette année, ça va être assez intéressant, bien évidemment. On va se rendre dans le ciel, parce qu'il y a un événement qui va être assez intéressant la semaine prochaine, précisément mardi. Mardi 21 janvier 2025 qui est annoncé comme une date à cocher sur le calendrier pour tous ceux qui sont amoureux du ciel étoilé parce que après la tombée de la nuit il y a plusieurs planètes qui vont devenir visibles en même temps et si le ciel est dégagé, alors j'ai pas du tout regardé les prévisions météorologiques, mais si le ciel est dégagé, eh bien on pourra voir Vénus et Saturne du côté du sud-ouest, Jupiter un petit peu au-dessus de nos têtes, Mars plutôt vers l'est, tout ça à l'œil nu, donc c'est quand même assez intéressant. Et si vous avez une lunette ou un télescope, vous pourrez voir également Uranus et Neptune. 6 planètes visibles simultanément, c'est quand même assez intéressant. Alors, c'est pas nécessairement rare, c'est pas vraiment banal non plus, le fait que plusieurs planètes se retrouvent du même côté de notre Soleil au même moment, et qui donc apparaissent un petit peu en même temps vivant dans notre ciel, mais cette fois, il est question de presque la totalité des planètes du système solaire. C'est ça qui est assez intéressant. Et c'est ce que l'on peut désigner comme un grand alignement des planètes. Alors, ça se produit pas tous les ans, ça vaut le coup d'œil, et ce grand alignement quelque part est faux. C'est pas nécessairement un alignement parce que les planètes elles sont pas vraiment alignées. Disons qu'elles sont positionnées le long d'une espèce de ligne courbe, mais certains préféreraient qu'on parle de parade de planètes ou de défilé de planètes. C'est des termes qui sont pas scientifiques, hein. Les scientifiques de ce domaine-là n'ont pas souhaité conserver ces termes-là, donc on va parler de grand alignement. Alors Vénus sera bien sûr, comme d'habitude, hein, la plus brillante des planètes de notre ciel, donc vous pourrez la repérer à l'ouest dans la constellation du Verseau pour ceux qui s'y connaissent. De toute façon, il y a pas mal de sites, notamment sur l'espace, qui vous donneront toutes les informations. Vous pourrez donc voir Saturne, qui va briller également. Vous pouvez même déjà commencer à les voir ce soir, hein, les deux, hein, Vénus et Saturne, parce qu'elles vont commencer à apparaître côte à côte dans notre ciel. Donc ça peut être intéressant ce soir, si le ciel est dégagé. Alors, c'est mal parti à Compiègne et dans la région Hauts-de-France, parce que le ciel est vraiment bouché aujourd'hui. C'est dommage. Jupiter sera plus visible encore, donc c'est assez intéressant. Et comme je l'ai dit, vous pourrez voir Uranus et Neptune. Alors, ça va être assez intéressant de voir ça ce fameux mardi 21 parce que, en fait, la Lune va se lever plus tard. Et donc, le ciel sera un peu plus sombre. Alors, bien sûr, si vous êtes en pleine région parisienne où il y a une pollution lumineuse horrible, vous allez difficilement distinguer certaines choses. Mais dans certaines régions de France, si le ciel est dégagé, comme la Lune arrive plus tard, le ciel sera plus sombre et vous pourrez voir de façon un petit peu plus claire ces fameuses planètes alignées. Ça se reproduira également à partir de fin février, début mars, où il y aura une septième planète qui va se joindre à la danse, ça sera Mercure. Donc c'est vraiment un moment assez intéressant pour ceux qui sont amoureux de l'alignement des planètes, bien évidemment. Voilà, allez, on va écouter peut-être un petit peu de musique, si j'arrive à retrouver mes réflexes de programmation. On fait tout, hein. On est animateur, rédacteur en chef, réalisateur et programmateur musical. On va écouter les Ogres de Barbarx sur l'antenne de Graphite et on va continuer à éplucher l'actualité scientifique et on va aller dans le ciel parce que entre Jeff Bezos et Elon Musk, ça se frite un peu. C'est assez intéressant tout de suite sur l'antenne de Graphite.
Beaucoup connu, celui qui est arrivé hier, qui part demain, bien entendu. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard, tu comprendras. En attendant, chante ta colère. Il n'a pas choisi sa planète, pas choisi entre terre et lune. Il n'a pas remboursé ses dettes et n'a jamais, jamais fait fortune. Mon papa, mon père, celui qu'on voit sur l'avenue, au bras de filles un peu vulgaires qui se promènent à moitié nues. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard, tu comprendras. En attendant, chante ta colère, il dit quand je n'ai pas le moral, je vais me soigner dans les bars. Il dit plutôt que dormir mal, moi je préfère me coucher tard. Mon papa, mon père qui s'endort parfois dans la rue, bourré de vin, ivre de bière, que les voisins ne saluent plus. Mon père, mon papa qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras. En attendant, chante ta colère, il a tiré mes 400 coups, mais il n'a jamais dit je t'aime, il dit on n'est rien, c'est un tout. J'ai pas la tâche, pas le problème. Mon papa, mon père, celui qui tutoie l'inconnu, celui qui mendie son salaire devant les portes du Super U. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras. En attendant, chante ta colère. Il dit je n'ai plus rien à gagner et je n'ai jamais rien eu à perdre. Il dit que je suis mal élevé quand je lui dis que je l'emmerde. Mon papa, mon père, qu'aurait mieux fait s'il avait su de se la faire en solitaire qu'un gosse avec une inconnue. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras. En attendant, chante ta colère, il dit
tu seras un fils de paumé. Ton héritage, c'est ma connerie. Et mieux vaut être un vrai raté que de faire semblant d'être réussi. Mon papa, mon père, celui qui cette nuit s'est battu pour un mot de trop dans un verre, pour affirmer son point de vue. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard, tu comprendras. En attendant, chante ta colère dans un rare moment de tendresse. Il me dit, je suis fier de toi. Le jour où la vie me délaisse, tous les paumés se souviendront de moi. Mon papa, mon père, celui qui boit à son insu, qui voit l'avenir dans son verre, une courte vie pleine d'imprévus. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard, tu comprendras. En attendant, chante ta colère. Mon papa, mon père, ce zéro extraordinaire, chien de la nuit, chat de gouttière, une crise de rire, une crise de nerfs. Mon père, mon papa, une grande gueule et un bon coup droit, un coup mort, une mauvaise foi, ta place en as, fais pas dans toi. Mon papa, mon père, celui que je n'ai pas beaucoup connu, celui qui est arrivé hier, qui part demain, bien entendu. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard, tu comprendras. En attendant, chante ta colère.
Le Daron, c'était les ogres de Barbac sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. La rediffusion tous les mardis matins à 10h sur la bande FM 94.9, sur internet graphite.net. Et donc apparemment, j'ai pas eu le temps de regarder pendant qu'on écoutait les ogres de Barbac l'application Radio Player France. Il faut que je télécharge ça, que je vois, parce qu'apparemment on peut également nous écouter sur cette application, bien évidemment. Alors, on va aller dans l'espace parce que c'est assez intéressant ce qui se passe dans l'espace entre Jeff Bezos et Elon Musk. Alors je vais commencer parce que alors, du coup j'ai plein de papiers, je cherche des articles qui vont nous permettre d'expliquer ce qui se passait. Allez, je vais commencer par Starship, hein. Je vais commencer par Elon Musk parce que Starship a été cloué au sol, hein. C'est la fusée de SpaceX qui a été suspendue de vol hier par le régulateur américain de l'aviation qui a demandé à l'entreprise d'ouvrir une enquête après l'explosion jeudi du second étage de sa fusée. C'était au-dessus des Caraïbes. Alors, c'était le 7e vol d'essai de cette méga fusée Starship, la plus grande jamais construite. La société d'Elon Musk est parvenue à rattraper pour la deuxième fois le premier étage. Il y a des images que vous avez peut-être vues. C'est vrai, quand même, c'est assez fascinant de voir ce premier étage qui est récupéré, parce que c'est quand même une manœuvre assez complexe et assez spectaculaire. Mais les choses se sont gâtées parce que le second étage de l'appareil, lui, a fait l'objet, selon les termes de SpaceX, d'un désassemblage rapide non programmé. Bon, ça veut dire une explosion, quoi. Enfin, voilà. Mais j'aime bien, ils utilisent toujours des termes compliqués pour dire explosion. Et après cette explosion, eh bien, l'administration américaine avait indiqué avoir brièvement détourné des avions autour d'une zone de chute de débris de véhicules spatiaux, parce que oui, il y a une explosion, donc oui, ça redescend sur Terre. Vendredi, dans un communiqué donc, qui annonçait la suspension des vols de Starship, eh bien, l'administration américaine a aussi précisé, je cite, « travailler avec SpaceX et les autorités concernées pour confirmer des dommages sur des biens dans les îles Turques et Caïques », c'est en fait dans les Caraïbes, soulignant qu'il n'y avait pas d'informations sur d'éventuels blessés, nous dit-on. Selon donc la procédure, les vols de SpaceX pourront reprendre lorsqu'elle aura soumis son enquête à cette administration américaine. L'idée, c'est un petit peu de comprendre les mesures correctives et puis ensuite recevoir le feu vert du régulateur. Alors, si l'entreprise démontre qu'elle a pris des mesures préventives et que l'incident n'a pas mis en danger la sécurité du public, SpaceX, pourra ainsi présenter une demande de reprise de vol avant la fin de l'enquête. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de SpaceX, et je viens de vous lire rapidement un article de Libération qui est paru tôt ce matin, je crois, ou hier soir. Et du côté de Jeff Bezos, parce que c'est un petit peu le concurrent, eh bien, c'est aussi un petit peu mitigé. Jeff Bezos, il a quand même pas caché sa fierté, hein, il a fondé Blue Origin 2000, et donc le milliardaire a assisté à l'envol de son gros bébé à lui, la fusée géante qui s'appelle New Glenn. après avoir installé un petit peu son business dans le tourisme spatial avec une capsule qui s'appelle New Shepard, qui est réutilisable, on l'avait parlé dans cette émission, eh bien Jeff Bezos va enfin pouvoir titiller l'empire SpaceX et il va donc pouvoir s'attaquer à son adversaire Elon Musk. C'était donc jeudi matin, la fusée New Glenn a fait rugir les 7 moteurs puissants qui ont consommé du méthane et de l'oxygène liquide pour sa propulsion. Le décollage a commencé en douceur. En douceur parce que la fusée, elle est quand même surdimensionnée. Elle fait 1300 tonnes. Elle fait 98 mètres de haut. C'est quand même assez énorme. C'est la même hauteur que la méga fusée lunaire de la NASA. Alors, le Starship de SpaceX est plus grand, mais on est quand même sur des dimensions assez, assez importantes. Le vol a eu lieu après quelques reports. Le lanceur a décollé de Cap Canaveral. 2 minutes après le décollage, eh bien, New Glenn a passé un cap critique. C'est le cap du maximum de pression aérodynamique sur la structure du lanceur. Donc c'était une zone un petit peu test, mais test grandeur nature. La séparation de l'étage principal et de l'étage supérieur s'est déroulée de façon nominale, ça veut dire que ça s'est bien passé, et un peu plus tard, l'étage supérieur se mettait en orbite. Il hébergeait à bord un prototype du véhicule de transfert spatial Blue Ring, ça s'est plutôt bien passé. Et le premier étage qui, lui, mesure presque 58 mètres de haut, 7 mètres de large. C'est quand même un gros bébé. Hein. Ce premier étage devait redescendre et se poser sur une barge autonome, un peu comme SpaceX. C'était un petit peu la même idée. Mais Blue Origin a perdu contact après la mise à feu de freinage quand c'est rentré dans l'atmosphère. Et plus tard, la compagnie donc, de Jeff Bezos a annoncé que le premier étage avait été perdu. Alors cette tentative, c'était quand même totalement audacieux. On considère qu'il y avait quand même peu de chances que ça réussisse du premier coup. Il a fallu plusieurs vols à SpaceX pour réussir. Là, c'était le premier pour Blue Origin, mais ça n'a pas réussi, ça n'a pas fonctionné. Mais il ne désespère pas. Hein. Le PDG de Blue Origin a annoncé que le prochain vol aura lieu au cours du printemps, le temps d'analyser les données de ce vol inaugural. Alors, il faut au moins un succès supplémentaire à cette fusée New Glenn pour être certifié à envoyer des satellites de la défense américaine. Et il le souhaite bien sûr parce que les contrats sont quand même assez juteux, ça peut être intéressant. Le prochain vol pourrait embarquer les sondes de la mission martienne escapade de la NASA. Donc il y a un enjeu quand même assez important. Ensuite, eh bien, cette fusée New Glenn aura le champ libre pour commencer à déployer une méga constellation de satellites Kuiper d'Amazon. C'est un autre grand projet de Jeff Bezos et l'idée, c'est de concurrencer Elon Musk, bien sûr, avec Starlink. C'est-à-dire que les deux sont en train de... c'est un petit peu la course entre les deux. Alors, techniquement, c'est évidemment hyper intéressant. Économiquement, après tout, on ne va pas nécessairement se prononcer sur ce sujet-là, j'ai l'impression que je rabâche dans cette émission, mais parce que c'est pas la première fois que je le dis depuis quelques temps, cette décennie 2020, elle va être formidable, elle va être sensationnelle d'un point de vue de l'espace, parce qu'il y a plein de choses qui se passent dans l'espace, et on en parle souvent dans cette émission. Vous pouvez regarder sur Internet, vous trouverez pas mal de vidéos qui vont vous permettre justement de comprendre un petit peu, d'avoir des illustrations de tout ça, parce que c'est quand même quelque part technologiquement assez fascinant. Donc ça, c'était dans l'espace. On va également évoquer ce qui se passe, et ça, c'est un article de Futura Science. Futura Science est un site internet qui propose des articles de vulgarisation scientifique vraiment abordables et intéressants, et je me sers très souvent de ce site pour cette émission, parce qu'ils ont une faculté de pouvoir adapter l'écriture de leurs articles pour un grand public. Et parfois, ils abordent des sujets qui sont assez polémiques, peut-être entre guillemets. On évoquera tout à l'heure, si on a le temps, l'article vraiment intéressant sur l'hydroxychloroquine. Mais là, ils vont parler de Meta. Meta, c'est Facebook, hein, donc c'est Mark Zuckerberg. Et on apprend donc qu'il y aurait ce qu'on appelle les fact-checkers, c'est-à-dire les vérificateurs de faits, qui seraient un petit peu sortis de la piste, hein, et qu'on aurait de plus en plus de publications où les informations vraies et fausse se valent. Et Meta donc affirme à nouveau sa volonté de faire table rase du passé et prône désormais, tout comme Elon Musk quand il a repris Twitter à l'époque, prône la liberté absolue d'expression. C'est donc un virage à 180 degrés parce que dans les années 2010, Meta, donc la maison mère de Facebook, avait mis au point des intelligences artificielles capables d'identifier et d'anticiper la viralité des fausses informations. C'est un procédé qui fonctionnait plutôt bien, nous dit-on, et qui permettait de juguler un petit peu la propagation des récits les plus farfelus. Alors, on avait essayé d'évaluer l'efficacité, on parle de 90% d'efficacité. Bon, il n'y a pas nécessairement une étude précise sur ces sujets-là, mais en tout cas, bon, il y avait, on va dire, un filtre qui était quand même assez, assez performant. C'était une méthode qui avait finalement poussé les producteurs de ce type de contenu un peu farfelu, pour être gentil, vers X, donc l'ancien Twitter, qui sont plutôt attirés par l'absence de modération. Et en fait, ben voilà, patatras, ça change de politique au niveau de Meta qui vient de désactiver ce système automatisé de détection des fake news. Alors la firme ne s'est pas vraiment encore véritablement prononcé sur cette décision. Un de ses porte-parole avait déjà indiqué que les systèmes de sécurité de Meta avaient injustement censuré, dit-on, trop de contenu prédit comme étant susceptible de violer les conditions d'utilisation, et depuis, ces verrous sautent progressivement. Alors, il y a là donc la suppression de cet outil qu'on appelle les fact-checkers, qui permet justement d'avoir une vérification et une modération de ce qui est dit, eh bien, il est désormais autorisé d'employer un langage un peu déshumanisant sur la plateforme. Et donc, cet article de Futura, pardon, je vais y arriver, donne par exemple le fait qu'il est tout à fait possible, par exemple, de désigner les femmes comme, je cite, des objets ou des biens domestiques. Il est possible de se déclarer raciste et fier de l'être. Donc, ça va être assez compliqué, on va dire maintenant, de pouvoir démêler le vrai du faux sur les plateformes de Meta, donc essentiellement Facebook, bien sûr. On a appris ça la semaine dernière et c'est vrai que ça peut poser légitimement question, bien évidemment. Vous souhaitez réagir, n'hésitez pas, 06 95 065 026 si vous souhaitez réagir en direct par SMS. Allez, on va écouter un deuxième titre dans cette émission et je vous emmène ensuite à Las Vegas.
Marché de Libos, c'est coloré de monde. T'es malin comme un gosse, si t'y restes que deux secondes. On vend sur le parking des voitures et des jeans. Ça marche en à tout va ici, on stationne pas. Au marché de Libos, il manque plus qu'un chameau qui vend aux albatros sa dernière goutte d'eau. La couleur du piment et celle de la peau se mélange tendrement pour ce moment qu'il a. Marché de Libos, on trouve toutes les étoffes. À croire que les Romains sont restés dans le coin. Si le soleil est clair, ce marché centenaire, c'est pour qu'on ait la chance d'être un peu en vacances. Au marché de Libos, ça parle portugais. C'est cultiver sa bosse, ça ne fait rien à moitié. À croire que le Porto et l'amour qui est fier viennent juste d'arriver de l'autre bout de la terre. Marché de Libos, si des fois ça se corse, c'est pour mieux marchander, voir les prix au rabais. Ça te fait de l'animation, avec des voix cassées. Pour vendre son poisson, faut avoir la santé. Au marché de Libos, il faut voir le boucher qui débouche les oreilles à l'heure de la pesée. Lui c'est tout un poème, quand il cause boucher l'aime, sans jamais se couper, il arrive à chanter. Au marché marché de Libos, on mélange les senteurs. Ça c'est du près d'Écosse, mais surtout près du cœur. Au marché de Libos, c'est l'heure du ballet. Il reste quelques bras si tu veux nous aider. Au marché de Libos, y'a déjà des musiciens qui n'arrivent pas en rôle, ils ne tendent pas la main. Au marché de Libos, quand on aura le vieux os, on y rôlera notre poste de poste de chameau.
Au marché de Libos, c'était Batignolles sur l'antenne de Graphite. Graphite sur l'antenne de... Non, Biotine sur l'antenne de Graphite, et plutôt dans ce sens-là. Biotine, c'est l'émission d'actualité scientifique qui vous est proposée tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. C'est la reprise aujourd'hui. Oui, j'ai passé un petit peu plus de vacances de fin d'année, je suis désolé. Et la reprise est un petit peu décalé en ce 18 janvier, mais je suis très heureux donc de vous retrouver et de feuilleter l'actualité scientifique. Au mois de janvier, tous les ans dans cette émission, on parle toujours du CES. CES pour Consumer Electronics Show. En fait, c'est le principal salon de l'électronique et ça a lieu à Las Vegas. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est présenté à Las Vegas, eh bien, c'est bientôt ce qui sera dans nos maisons, dans nos voitures, en tout cas dans notre vie quotidienne. Toujours intéressant d'avoir un aperçu des dernières technologies qui sont cette fois présentées vraiment, soit des fois sous forme de prototype, mais en tout cas quelque chose de visuel, quelque chose de concret, et ça nous donne vraiment un aperçu de l'avancée des technologies. Alors les robots étaient très présents cette année, nous dit-on. C'est un peu le boom de la robotique qui est notamment propulsé par les avancées de l'intelligence artificielle, et Futura Science nous donne une petite liste non exhaustive des innovations qui ont été présentées. Alors notamment, il y a un drone sphérique. On ne sait pas si c'est un drone ou si c'est un ballon. En tout cas, c'est un drone d'apparence assez singulière parce qu'il est donc sphérique. Il est doté de 8 rotors. Ça lui permet de voler de manière stable. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sa forme ronde lui permet également de rouler au sol. Il a une taille assez compacte. L'idée, en tout cas l'une des finalités qui peut être intéressante, c'est de lui permettre de se glisser dans les endroits difficiles d'accès, notamment pour des opérations de secours. Il s'appelle Agamosphère, ce drone sphérique. Il y a un robot qui est assez troublant parce que la plupart des constructeurs évitent d'ajouter un visage humain à leurs robots humanoïdes. Eh bien, ce n'est pas le cas de Realbotics qui a opté vraiment pour le réalisme. Le résultat est assez particulier parce que ça évoque un peu les guignols, nous dit-on. Alors vous pouvez regarder tout ça, hein. Vous pouvez trouver toutes les images sur différents sites de science qui vous permettent justement de découvrir un petit peu ces robots. Il a ce robot qui s'appelle Aria. Il utilise une intelligence artificielle de type ChatGPT pardon, pour répondre de vive voix. Il coûte quand même 175 000 $. Hein. On ne s'offre pas ça nécessairement pour un Noël. Mais en tout cas, il a été, nous dit-on, conçu pour la compagnie et l'intimité. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, c'est le robot humanoïde Aria de Realbotics. Il y a d'autres robots multitâches qui notamment ont été présentés par le constructeur Switchbot, qui est connu pour ses robots ménagers. Et il a présenté son nouveau robot domestique à tout faire. C'est un aspirateur qui peut vous apporter aussi le petit déjeuner au lit. C'est quand même sympa. Alors on nous dit quand même que c'est pas lui qui prépare le petit déjeuner, hein. Il l'amène. Donc il y a quand même un moment, il faudra comme se lever pour le préparer ce petit déjeuner. Donc je ne vois pas l'utilité. Il peut transporter un purificateur d'air, un humidificateur, un ventilateur pour changer l'air de la maison. Il peut surveiller la maison avec une caméra de sécurité. Il peut ranger des objets parce qu'il est doté de bras. Donc voilà, ça va être vraiment notre quotidien. Ça va être notre compagnon bientôt, vous allez voir ça. Il y a une robot-tortue de piscine qui a été également présentée. L'idée de cette forme de tortue, c'est de minimiser l'impact sur les écosystèmes. Il y a également des panneaux solaires qui lui permettent d'avoir un fonctionnement autonome. Il y a Samsung également qui a présenté son robot Bali. C'est un robot, lui également, en forme de ballon, et il peut patrouiller dans la maison, il peut activer différents appareils connectés. Alors, Samsung affirme qu'il sera commercialisé cette année. Donc, ce qui est présenté à Las Vegas n'est pas nécessairement toujours disponible de suite. Mais la Samsung dit que ce fameux robot Bali va pouvoir être commercialisé. Mais on n'a pas encore nécessairement une idée du prix. Il y a un robot chien de chez Unitree qui a également été présenté. Alors, c'est un robot qui en lui-même n'est pas nécessairement nouveau. Mais il va profiter des avancées en matière d'intelligence artificielle. Et pour l'entreprise, donc Unitree, il s'agit d'une nouvelle créature de l'intelligence artificielle incarnée. Ça pose question, bien évidemment. Hein. Et ce robot chien, il peut se soulever pour marcher sur deux pattes. Très utile, évidemment. Et il utilise l'intelligence artificielle pour comprendre les commandes vocales. Il est proposé à la vente, lui, pour 1 600 $, donc si vous le souhaitez. Et puis enfin, il y a OpenDreads qui a proposé un robot semi-humanoïde un peu étrange. Il s'appelle le R2-D3 parce que c'est un torse monté sur une structure qui roule avec deux bras. Et l'idée, c'est de pouvoir assister l'homme dans les tâches de tous les jours. Alors, on l'a plutôt découvert, nous dit-on dans cet article de Futura Science, comme capable d'ouvrir les canettes de soda. Ok, ça peut être une utilité relative, on va dire. Mais il est capable de nombreuses tâches, comme plier le linge ou laver la vaisselle. Il s'appelle comment ? Ah, il a R2-D3 de chez OpenDroids. Donc voilà ce qui a été présenté au niveau des robots et des drones, essentiellement à Las Vegas. Il y a une autre chose qui a fait un petit peu sensation, c'est un appareil qui ressemble à un grille-pain ou comme une boîte de mouchoir jetable. C'est un peu cette forme un peu cubique avec une fente au milieu. Et ça a fait sensation parce que on nous dit que cet appareil permet de recharger notre smartphone en 2 secondes. Mon Dieu, en 2 secondes, mais c'est génial parce qu'on a toujours cette crainte de savoir si notre téléphone il va pouvoir durer toute la journée. Et comme l'énergie, c'est le nerf de la mobilité, tout est donc bon à prendre pour maintenir actif le plus longtemps possible ce smartphone. Et les astuces, les solutions technologiques, ça ne manque pas, mais au final, la batterie finit toujours par décliner. Et bien donc, à Las Vegas, il y a un nouvel accessoire qui a attiré l'attention du public. Il s'agit du Sweep It. Alors, vous pouvez le voir sur Internet. Il n'est pas nécessairement beau. Hein. C'est une espèce de boîte avec une fente au milieu. Donc, ce n'est pas visuellement totalement innovant, on va dire. Mais cet appareil, il a donc cette fente qui permet d'insérer un smartphone et il en ressort avec une batterie pleine à 100% seulement 2 secondes. Alors, comment c'est possible? C'est toute la question. Est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle technologie de charge rapide? Pas tout à fait. Donc, on n'est pas encore nécessairement sur ce concept-là. En fait, le smartphone doit être équipé d'un étui spécial et assez volumineux qui enferme une batterie. Et c'est cette dernière qui assure le maintien de charge de celle du smartphone, comme pourrait le faire une batterie externe classique. Et donc, quand elle est déchargée, eh bien, on insère notre mobile dans le boîtier et l'idée, c'est de retirer la batterie et de la remplacer par une autre qui était déjà chargée. Donc, c'est un petit peu un trucage, quelque part, c'est-à-dire qu'on a déjà une batterie chargée, pleine dans ce boîtier, et puis on le change directement en insérant notre téléphone dans la fente. Bon, c'est visuellement assez sensationnel de voir un téléphone qui est chargé en 2 secondes, mais c'est un petit peu plus complexe en termes de technologie employée parce qu'on n'est pas nécessairement encore sur une technologie de charge rapide. Il ne faut pas se leurrer, hein. C'est l'un des chevaux de bataille de nos constructeurs. Parce qu'effectivement, si on arrive à avoir des systèmes qui permettent une recharge rapide, quasi instantanée, celui qui arrive à découvrir ça, il se fait un fric fou, mes enfants. Mais là, ce n'est pas encore nécessairement le cas. Dernière chose, enfin, qui a été présentée à Las Vegas, c'était concernant l'anxiété, le stress et la solitude. Il y a des choses qui ont été présentées, notamment une entreprise start-up suisse qui s'appelle Nutrix, qui a lancé CortiSense. L'idée, c'est de pouvoir mesurer le niveau de cortisol, qu'on appelle l'hormone du stress. C'est un petit objet cylindrique terminé par une languette qui permet de recueillir la salive. Et cette salive est directement analysée par l'instrument. Et après quelques minutes, eh bien, les résultats sont consultés via une application mobile. Alors, jusqu'ici, il n'y avait pas d'outil pour contrôler son taux de cortisol chez soi. Il fallait soit aller à l'hôpital ou envoyer des prélèvements. Et en cas de résultat trop élevé, cette application propose une mise en relation avec des professionnels de santé pour apporter une réponse adaptée par consultation. La fondatrice de Nutrix, ça s'appelle Maria Anne, elle voit donc ce dispositif CortiSense comme une couche supplémentaire de paramètres, un complément de l'écosystème existant de Nutrix. L'idée, c'est de pouvoir peut-être avoir un premier diagnostic, entre guillemets, de ce taux de cortisol, donc ce taux d'hormone du stress. Alors, l'objet sera accessible à l'achat direct par des particuliers et en fait, la fondatrice voit surtout le modèle se développer autour des assureurs santé, voire des organismes publics, mais aussi des entreprises. L'utilisateur conservera la propriété de ses données personnelles, mais elles pourront être agrégées à celles d'autres salariés pour observer le niveau de stress d'une équipe, d'un service, par exemple. Donc, il y a un côté anonyme, mais on va agglomérer toutes les informations et avoir quasi en temps réel, un état du stress de l'équipe, ou en tout cas, un état, une moyenne du taux de cette hormone du stress. L'entreprise pourra décider davantage de congés sur la base des informations qu'ils pourront recueillir, par exemple. C'est assez troublant, hein, quelque part, bien évidemment. Il y a d'autres concurrents qui proposent des choses un petit peu similaires pour essayer d'évaluer le stress en entreprise. Mais voilà, en tout cas, Las Vegas qui a fait sensation, c'est un petit peu ce dispositif parce qu'il y a le côté instantané et non intrusif parce que quelque part, on récupère un peu de salive et on a automatiquement un résultat. Mais bon, on voit après les dérives en termes de données personnelles sur ce genre de sujet qui peuvent être assez compliqué à gérer, bien évidemment. On écoute un dernier titre, il est déjà 12h43, ça va être compliqué. Dernier titre de cette émission, puis on se retrouve juste après. On va continuer comme ça à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique.
Il reste à sa maison comme un con. Devant son écran, j'en sais, devient mon caleçon. Il a tout le boxon qui va avec la chaîne Hi-Fi high-tech. Un truc d'enfer pour faire le cake. De quoi faire péter le son et les plombs du voisin, mais avec lui, pas question. Il branche juste le caisson pour gober les informations. Il veut de la basse pour toutes les explosions. Sinon, quand il veut de l'action, il branche la PlayStation. Il gagne la Ligue des clubs champions sans se bouger le fion. Il s'abonne à CanalSat. Il s'enferme et devient psychopathe. Il ne pense plus, il ne bouge plus. Monsieur Globule est noctambule, ne déambule que dans sa bulle. Monsieur Globule reste dans son vestibule. Il ne pense plus, il ne bouge plus. Monsieur Globule est noctambule, ne déambule que dans sa bulle. Monsieur Globule reste dans son vestibule.
ADDSL,
antidépresseur pour solitaire loser. Quand il se sent trop bête, il se connecte à internet. Ou bien quand il s'ennuie pour y chercher des amis. Puis il passe la nuit sur un jeu pourri à dégommer ses potes, les autres internautes. À la fin de la partie, la nuit est finie. Il a les yeux qui sortent, mais lui, il reste dans sa grotte. Des fois, il surfe à la page avec son pote web. Il reste en connexion. Il voyage dans des images. Il ne s'amuse plus, c'est dommage. Des histoires qu'il télécharge. Il ne pense plus, il ne bouge plus. Monsieur Globule est noctambule, ne déambule que dans sa bulle. Monsieur Globule reste dans son vestibule. Il ne pense plus, il ne bouge plus. Monsieur Globule est noctambule, ne déambule que dans sa bulle. Monsieur Globule reste dans son vestibule.
Allô?
Ouais.
Allô?
C'est qui?
Bah c'est moi, on devait se voir aujourd'hui, donc tu veux on fait un truc?
Franchement, je suis pas abouti.
Je sais pas, on a qu'à aller au...
Non, je crois que je vais rester.
En plus, il fait beau, donc...
Non, parce qu'il y a le machin qui doit passer.
Ah ouais, bon, bah... Okay.
Et en fait, je crois que là...
Ouais.
Je suis à partir de play, et puis...
Bon bah on se retrouve sur le web.
Faut dire que c'est pratique. Le net ça pète pour claquer son fric. Plus besoin de sortir de son appart.
Le ciel est bleu, tu sais quand t'as la carte. C'est vrai que ça lui arrive de se faire livrer des pizzas, frites, jambon, magret. Y'a des soirs, ça fait vraiment trop chier. Alors, pour se remonter et pour changer, il se fait
un petit plateau d'huile.
Il ne pense plus, il ne bouge plus.
Monsieur Cloporte
reste dans sa grotte.
Quoi qu'en pensent les autres,
Monsieur Cloporte ne dépasse pas la porte. Il ne pense plus, il ne bouge plus. Monsieur Globule, noctambule,
déambule que dans sa bulle.
Monsieur Globule
reste dans son vestibule.
Il ne pense plus, il ne bouge plus.
Monsieur Globule, noctambule, déambule que dans sa bulle.
Monsieur Globule reste dans son vestibule. Il ne pense plus,
il ne bouge plus.
Monsieur Globule, noctambule, déambule que dans sa bulle. Monsieur Globule reste dans son vestibule.
Il ne pense plus,
il ne bouge plus.
Monsieur Globule, noctambule, déambule que dans sa bulle.
Monsieur Globule reste dans son vestibule.
Il ne pense plus,
il ne bouge plus. Monsieur Globule, noctambule, déambule que dans sa bulle. Monsieur Globule
Monsieur Globule, c'était Monsieur Tristan sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour cette émission de reprise pour l'année 2025. Eh bien, nous feuilletons un petit peu la revue de presse de l'actualité scientifique de ces dernières semaines. Pas mal de choses qui se sont passées cette semaine, notamment au niveau de l'espace, de ce qui s'est passé également à Las Vegas, hein, avec donc ce fameux salon de l'électronique et de la technologie. C'est assez intéressant. Pas très loin de Las Vegas, vous avez tous vu bien sûr ces incendies en Californie, assez désastreux. Selon les autorités californiennes, l'origine première des feux est criminelle apparemment. Des dizaines de suspects susceptibles d'avoir volontairement déclenché les incendies ont été arrêtés. Pour d'autres feux, il est possible que les vents forts aient endommagé des piliers électriques qui se seraient alors enflammés. Le déclenchement du gigantesque feu de Pacific Palisades, hein, ce quartier un peu huppé où il y a toutes les stars qui sont là-bas, eh bien, ce déclenchement pourrait être lié au feu d'artifice du Nouvel An, dit-on. En tout cas, c'est ce que rapporte le Washington Post, parce que ce feu aurait débuté exactement au même endroit où les pompiers avaient éteint un incendie lié au feu d'artifice. Donc, il est possible que des restes de ce petit feu aient subsisté avant de connaître une aggravation explosive liée au vent. En fait, il y a une multitude de facteurs qui a ensuite conduit à l'aggravation de la situation et qui a donc mené à la catastrophe majeure en cours. Des vents assez exceptionnels à plus de 160 km/h, une sécheresse des sols, parce qu'en fait, il y a une quasi-absence de pluie depuis mai dernier. Donc effectivement, c'est assez compliqué. Il y a des espèces invasives très inflammables qui ont été apportées par les humains. Il y a des arbres qui ont été plantés là où il n'y en avait pas avant, donc on a un petit peu déstructuré l'écosystème. Une végétation plus abondante que la normale en Californie parce qu'il y a eu des fortes pluies en 2022 et en 2023, donc ça a poussé. Après, il y a eu de la sécheresse, donc du coup, ça devient sec quelque part. Une urbanisation explosive dans une zone à haut risque d'incendie. Et puis enfin, un manque d'eau dans les réserves déplorées par les pompiers. Et le climat dans tout ça? Eh bien, il y a une première étude qui vient de sortir. Climamater estime que les conditions météo sur la zone des incendies ont nettement évolué en lien avec les émissions de gaz à effet de serre. Parce que dans cette zone, les températures sont en moyenne 5 degrés plus élevées que la période 1987-2023. Enfin, c'est quand même assez fascinant. 87, c'était il y a 40 ans, même pas. Eh bien, température en moyenne 5 degrés plus élevée. Le temps est 15% plus sec et le vent 20% plus élevé. Alors effectivement, vous conjuguez un petit peu tout ça, c'est sur des périodes quand même assez récentes, pour le temps sec et le vent plus élevé, c'est sur une période qui date des années 50 aux années fin des années 80. Et donc on voit très bien qu'il y a une concordance de situations qui font que ça devient dramatique, bien évidemment. Mais voilà, il y a des premières estimations qui... enfin, en tout cas, des estimations et d'analyses du climat dans cette zone qui, voilà, donnent un petit peu des raisons de ce côté désastreux de ces incidents, de ces incendies, pardon, du côté de la Californie. Je vais y arriver, pardon. Alors, il est 12h51, nous êtes toujours à l'écoute de Biotine sur l'antenne de Graphite, hein. Nous sommes toujours en direct aujourd'hui, et je voulais terminer cette émission avec cet article de Futura Science assez long, alors je vais essayer d'en faire un résumé. Je trouvais intéressant d'aborder ce sujet-là. C'était le sujet de du Covid-19 et de l'hydroxychloroquine. Et le titre de cet article est sans appel. On savait depuis le début que le protocole Raoult n'était pas crédible. En fait, c'est précisément mi-décembre qu'on a appris dans la presse, au niveau des médias, au niveau international, au niveau des revues scientifiques également sérieuses, on apprend que l'étude de Didier Raoult et de 17 de ses collègues qui affirmaient une efficacité de l'hydroxychloroquine dans le protocole d'un traitement contre la Covid-19, eh bien, cet article a été retiré par son éditeur avec des explications à l'appui. Elle avait été publiée en 2020, cette étude, dans la revue qui s'appelle International Journal of Antimicrobial Agents. C'est une revue de l'éditeur scientifique Elsevier. Elsevier est quand même un grand nom de l'édition scientifique. En fait, ce n'est pas une surprise le fait que cette publication ait été retirée. Ce n'est pas une surprise pour la communauté scientifique qui, il y a plus de 4 ans déjà, alerté sur les multiples problèmes de cette étude et qui avait conduit déjà 3 des auteurs à ne plus la soutenir. Des problèmes qui avaient été notamment mentionnés en détail en 2023 dans une autre étude publiée également par Elsevier et qui réclamait officiellement la rétractation de l'article. En fait, la rétractation de cet article aurait dû se faire dès 2020. Et contrairement à ce que pensent et disent encore certains sur les réseaux sociaux, Elsevier n'a pas retiré l'étude uniquement pour des problèmes éthiques, mais bien aussi parce que l'étude ne permettait aucune conclusion sur l'efficacité du protocole du professeur Raoult en raison de problèmes méthodologiques. Il ne s'agissait donc pas seulement de retirer un exemple encourageant à ne pas respecter certaines règles purement éthiques, mais bien de faire savoir que cet article ne pouvait en aucune manière servir d'argument pour ou contre l'usage de l'hydroxychloroquine, et donc qu'il n'était pas acceptable de prétendre qu'il était une preuve de l'efficacité de ce traitement. Alors, contrairement à ce que pensent encore certains, cela fait des années que nous avons, dit-on dans cet article, que nous savons que l'hydroxychloroquine ne sert à rien pour prévenir ou traiter la Covid-19 d'une façon ou d'une autre, et les publications parfois mises en avant pour dire le contraire ne résistent pas à la critique et ne servent qu'à soutenir des théories du complot sans aucun fondement rationnel ni factuel. Un bon exemple nous vient de l'Inde. Dès la fin de l'année 2021, le Conseil indien de la recherche médicale avait abandonné l'utilisation de deux molécules, et notamment de l'hydroxychloroquine. Et en 2023, toujours en Inde, eh bien, les recommandations des traitements pour les malades indiquaient bien que ces deux molécules, donc notamment l'hydroxychloroquine, ne devaient pas être utilisées. Alors le débat se poursuit cependant quant à savoir si le protocole du professeur Raoult non seulement n'était pas efficace, mais augmentait le nombre de décès avec la Covid-19. Alors, inutile de dire que même en l'absence d'une telle augmentation, eh bien, le fait d'avoir fait de la publicité faussement de l'usage d'un traitement dont les effets n'étaient pas clairement démontrés, ça n'a pas aidé à éviter des morts en donnant un faux sentiment de sécurité et un prétexte pour ne pas prendre les mesures qui s'imposaient pour sauver des vies et stopper la pandémie. On peut légitimement se demander ce que la justice pourrait en penser dans un futur proche, bien évidemment. Rappelons bien sûr que ce ne sont ni des commissions de gouvernement ni des jurys qui décident des faits scientifiques et que leurs conclusions à ce sujet ne valent rien. Beaucoup a déjà été dit et pourrait être répété pour savoir ce qu'il faut penser de cette saga de l'hydroxychloroquine, de la façon dont la pandémie a été gérée, de ce qu'il faut penser des vaccins ARN messagers et des manifestations relevant du complotisme et de ce qu'on appelle la pseudo-science, y compris chez des personnes instruites qui se sont exprimées et s'expriment encore sur ces sujets. Et donc dans cet article de Futura Science, il y a toute une démonstration assez intéressante que je vous incite à lire justement pour avoir une vision un petit peu plus détaillée de ce qui peut se passer dans la tête de certains scientifiques. Et cet article mentionne notamment, comme le disait Einstein, il n'y a donc pas de chemin logique menant à des faits expérimentaux, à des découvertes. pardon, il n'y a pas de chemin logique qui mène des faits expérimentaux à des découvertes. Il y avait un autre scientifique qui s'appelle Feynman qui avait également l'habitude de dire que la meilleure théorie, c'est la meilleure qui est devinée. Mais il ajoutait également que la clé fondamentale de la science, c'était la capacité à comparer les prédictions de la théorie à l'expérience et que si un désaccord apparaissait, alors quelle que soit la beauté de la théorie, l'intelligence ou le nom de la personne qui avance la théorie, eh bien si elle en désaccord à les faits, cette théorie, elle est fausse. Point. Et là, c'est quand même assez clair, bien évidemment. Ce qu'on veut dire par là, en fait, c'est qu'il n'y a pas de découverte scientifique sans que les prédictions théoriques ne passent par le crible d'une méthodologie bien établie, des tests d'hypothèses, des estimations scientifiques, des protocoles qui vont avec. C'est pas compliqué, c'est la base de la recherche scientifique et ça a un petit peu comment été dévoyé, malheureusement. Alors, toujours est-il qu'au début de 2020. Lorsqu'il est devenu clair qu'une pandémie sérieuse était en cours, il n'était pas absurde de se demander si l'hydroxychloroquine pouvait être utile pour plusieurs raisons. Néanmoins, on savait aussi que, bien que l'on ait constaté à plusieurs reprises des propriétés antivirales in vitro pour l'hydroxychloroquine, jamais encore, elle n'avait été observée également in vivo. In vivo, ça veut dire dans le vivant. On sait bien que non seulement des traitements qui marchent in vitro ne marchent pas forcément in vivo dans le monde animal, mais quand même ce serait le cas, il n'est jamais assuré non plus qu'ils auraient les effets espérés chez l'homme. Si vous êtes auditeur fidèle de Biotine, vous savez, on en parle souvent dans cette émission, il y a des découvertes qui sont faites, notamment des découvertes médicales, qui sont faites en théorie. Et je vous dis toujours qu'il y a une phase qui va être très longue d'expérimentation sur des modèles animaux et ensuite des expérimentations chez l'homme. On n'en était pas encore là au niveau de l'hydroxychloroquine. Très rapidement, Mathieu Molimard, qui est chargé en pneumologie, en pharmacologie, il travaille au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Il a joué un rôle important avec d'autres personnes très actives sur Twitter à l'époque dans la critique et le fait de retirer cet article en question. Eh bien, Mathieu Molimard avait d'ailleurs expliqué à l'époque et répété ensuite qu'on pouvait avoir de très gros doutes en ce qui concerne l'hydroxychloroquine et la Covid-19. Parce qu'il y avait cette idée que si c'est en in vitro et que ça donne des résultats, les résultats ne sont pas nécessairement les mêmes si on expérimente chez l'homme. Il était indispensable de procéder selon les règles de la découverte scientifique avec rigueur et de ne pas donner le traitement à tout le monde tant que des tests n'avaient pas été conduits. Aucune urgence de la situation ne pouvait permettre de balayer des revers de main ce que la recherche médicale nous avait appris depuis un moment déjà sur les risques de se tromper grossièrement sur l'innocuité d'un traitement. Les biais méthodologiques de cette étude en question étaient donc inacceptables, nous dit-on. De fait, et déjà au bout de quelques mois, on commençait à voir que l'hydroxychloroquine était inefficace dans le meilleur des cas, et plusieurs études avant la fin de l'année 2020 sont finalement arrivés à la conclusion que c'était la fin de partie pour les espoirs de prévenir ou de traiter d'une façon ou d'une autre la Covid-19. On savait en clair depuis le début que le protocole qui avait été mis en avant par le professeur Raoult n'était pas crédible. Voilà un exemple qui va être intéressant de prendre un peu de recul sur ce qui s'est passé pendant cette phase assez compliquée de la Covid-19, mais un superbe exemple d'une science qui va trop vite et qui finalement n'est peut-être pas une vraie science dans le sens, je dirais, efficace, en tout cas de ce qu'on attend de la science. C'est un article vraiment intéressant que je vous invite à lire sur Futura Science. Là, c'était un résumé assez succinct parce que déjà, on arrive à la fin de cette émission. Mais je vous invite vraiment à lire cela. Ça a fait quand même pas mal de buzz, comme on le dit maintenant dans les médias. C'était mi-décembre, fin décembre. Mais comme il y a eu les fêtes qui sont arrivées entre-temps et pas mal de complications d'un point de vue politique, c'est un peu passé entre les mailles du filet. Mais je vous invite justement à relire cela. Il est 13h, c'est la fin de cette émission. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.